Et alors, c'est là que je voudrais dire quand même une chose aussi, c'est que bon, les eugénicistes apparaissent aussi comme des gens un peu idéalistes et complètement à côté de la plaque. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les anarchistes du 19e siècle qui disaient aux États-Unis, par exemple, et en France aussi, que la femme est l'égale de l'homme, à cette époque-là, on disait, c'est contre nature, c'est contre Dieu, c'est contre la Bible, c'est pas possible, ça peut pas se faire, ça ne se fera jamais, c'est physiologique, ça ne peut pas changer. Et bien, ces idées que les anarchistes ont développées à l'époque, ben aujourd'hui, quand même, elles sont acceptées.
Hey, c'était la voix de Ronald Craig, un historien de l'anarchisme qu'on va avoir en entrevue tout à l'heure. C'était pour comme l'annoncer. Vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif Anarchiste la nuit en compagnie de Nicolas,
Janie
et Farouko.
Donc cette semaine, une longue entrevue avec l'auteur de Utopie américaine, expérience anarchiste du 19e siècle à aujourd'hui, un livre qui a été publié chez Agon en 2009, en octobre 2009, et évidemment toute une trolley de nouvelles internationales.
Ça va. On parlait d'une manifestation néo-nazie à Los Angeles, de l'Arizona qui encourage le profilage racial et d'un des derniers dictateurs, le dernier dictateur argentin qui était maintenant derrière les barreaux.
Tout ça accompagné de musique?
Ben oui. On va commencer avec The Black Poet, Linton Kwesi Johnson. C'est dur à dire, KWSI. Là. C'est dur. Avec Fight Them Back.
Smash their brains in, 'cause they got nothing in them. We're gonna smash their brains in, 'cause they got nothing in them. Well, some of them say them a nigga hater, and some of them say them a black beater, and some of them say them a black stabber, and some of them say them a pocket basher. Fascists on the attack, we're not gonna worry about that. Fascists on the attack, we are gonna fight them back. Fascists on the attack, then we counter attack. Fascists on the attack, then we drive them back. We're gonna smash their brains in, 'cause they got nothing in them. We're gonna smash their brains in, 'cause they got nothing in them. Fascists on the attack, we're not gonna panic over that. Fascists on the attack, we're gonna fight them back. If fascists on the attack, then we counter-attack. If fascists on the attack, then we drive them back. We're gonna smash their brains in, 'cause they got nothing in them. We're gonna smash their brains in, 'cause they got nothing in them. Some of them says them a nigga hater, and some of them says them a black beater, and some of them says them a black stabber, and some of them says them a pocket basher. Fascists on the attack, don't bother worry about that. Fascists on the attack, come make we fight them back. Fascists on the attack, make we counter attack. Fascists on the attack, then we drive them back. We're gonna smash their brains in, 'cause they got nothing in them. We're gonna smash their brains in, 'cause they got nothing in them. Smash it! We'll be right back.
Thank you very much.
De retour à Voix de Fée sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Pour faire exception, on va commencer avec les nouvelles internationales. Et il y a des bonnes nouvelles en Argentine.
T'appelles ça une bonne nouvelle, toi? C'est bonne nouvelle. Ouais, ben c'est ça. C'est le dernier chef de la junte militaire argentine, Renato Brignone, qui a été condamné mardi à 25 ans de prison pour son implication dans l'enlèvement, la torture et le meurtre de 56 personnes dans un camp de concentration clandestin en 1970. Qui se souvient, l'Argentine, dans ce temps-là, était sous le jour d'une dictature militaire que je pense qu'on pourrait dire d'extrême droite ou proche de ça.
D'extrême droite, oui. C'est, ben, en fait, c'est, on parlait de populisme.
Ouais. C'est ça, non, j'ai mal prononcé. Renato Brignone, je pense que c'est ça. C'est lui, il est âgé de 82 ans. Il a été jugé pour des faits contre des crimes en 1976 et 1978 avant qu'il ne devienne le président désigné de la junte militaire de 1982 à 1983. Lui, après ça, il avait remis le pouvoir au président social-démocrate Rolf Alfonsín, du retour de la démocratie. Puis il y a aussi six autres anciens gardes du régime militaire qui ont sauté en plus de 80 ans et qui ont écopé de 17 à 25 ans de prison. Ces derniers sont considérés comme les chefs du centre de détention clandestine des casernes du Campo de Mayo, dans l'ouest de Buenos Aires, où ont été incarcérés près de 4000 opposants, dont la majorité sont toujours portés disparus. Puis, étrangement, lui, il dit qu'il était mieux, qu'il dit qu'il préférait être condamné plutôt que répudié par M. Prieur et M. Balterne, qui ont combattu avec moi les horreurs de cette guerre contre le terrorisme.
En fait, le monsieur, il ne reconnaît pas le tribunal.
Non.
Il dit, moi, je suis un militaire, ouais. Vous devriez me juger avec la cour militaire. Il ne reconnaît pas le tribunal civil.
Classique.
Mais il reconnaît par contre les exactions de la dictature. C'est assez spécial. Il conteste juste les chiffres. Il ne dit pas 30 000, ouais. C'est 8 000. Enfin.
Puis, c'est un révisionniste, quoi.
Puis tu sais, puis lui, il dit qu'il y a eu environ 30 bébés qui ont été volés pendant la dictature. Puis ce matin, la justice estime qu'il y en a eu plus de 500, dont 101 ont retrouvé leur identité, mais il y en reste ça.
Oui, ben cette question-là des bébés, c'est quand même assez hallucinant. Là. On parle de bébés volés, mais en fait, c'est des enfants de militants de gauche, des bébés effectivement qui étaient remis à des militaires pour qu'ils les élèvent et qui éradiquent le communisme. C'est quand même... C'est très particulier, disons-le comme ça.
Puis là, il y a Estella De Cartolo, qui est la présidente de l'organisation humanitaire des grands-mères de la place de Mai, qui se bat pour identifier ses bébés volés. Elle dit que la justice est enfin faite en s'adressant aux militaires. Elle dit « Vous allez connaître le même sort que les nazis, où que vous soyez, nous aurons vous chercher. » Donc, en réaction à cette condamnation-là. Oh, excusez. Du côté des États-Unis, ben ça, là, on tombe vraiment dans des très mauvaises nouvelles. C'est en Arizona, il y a une loi controversée qui a été adoptée sur l'immigration illégale. Les citoyens à la peau foncée aux traits latinos risquent d'être arrêtés et détenus en Arizona s'ils n'ont pas sur eux des papiers d'identité en règle.
Ah bon? C'est pour contrer l'immigration illégale, hein, c'est ça?
Oui.
Ils font juste mettre sur papier ce qui se fait déjà un peu partout dans le monde.
Le légalise.
C'est ça, ouais. Cette nouvelle loi-là qui est adoptée cette semaine permet aux policiers d'interpeller toute une personne soupçonnée d'être un immigrant illégal, c'est une première au pays. Jusqu'à maintenant, cette tâche-là, c'était de faire... la tâche de faire respecter ces lois sur l'immigration, ça incombe aux agents fédéraux. Là, maintenant, n'importe quel policier pourrait appréhender un immigrant illégal seulement si celui-ci était... Ah non, c'est ça. C'est qu'il pouvait appréhender un immigrant illégal seulement si celui-ci était soupçonné d'avoir commis un crime. Maintenant, si c'est policier à étendre, vous prenez les latinos et t'as tes papiers,
C'est la légalisation du délit de faciès.
Exactement.
Oh, un beau grand classique qui revient.
C'est selon Chris Newman, directeur de l'Association nationale des travailleurs journaliers, l'Arizona est sur le point de mettre la loi anti-immigration la plus rigide jamais vue dans ce pays depuis génération. Il a qualifié cette loi d'anticonstitutionnelle, de mal avisée, de révoltante. Puis il dit que cet État-là est devenu un laboratoire pour les expérimentations en matière de loi anti-immigration au pays. Il y a l'Association des chefs de police de l'Arizona qui s'est prononcée contre la loi en affirmant qu'elle briserait le lien de confiance entre les policiers et les immigrants. Ça, les policiers craignent que les immigrants témoins d'un crime ou d'un accident décident de ne prendre la fuite plutôt que de collaborer avec les autorités.
Okay. Il faut le faire quand même, les chefs de police sont contre.
Ça va pas bien.
Et selon David L. Seldon, qui est un avocat spécialisé en immigration, signant que cette loi-là va surtout avoir pour effet d'enrichir les avocats. Cette loi est une grande subvention pour les avocats anti-immigration. Elle va accorder des fonds publics aux avocats qui pourront poursuivre les conseillers municipaux, les fonctionnaires, les employés de la librairie, qui sont soupçonnés de ne pas apporter aux autorités la présence d'immigrants illégaux.
Alors, tu refuses de collaborer, t'es criminel.
Après le délit de faciès, il y a le délit de solidarité.
Ouais.
C'est aussi le cas en France, en fait. Si tu t'aides un sans-papier... En fait, ça a commencé avec les hétérata, là, puis hétara ou hétérata, je me souviens pas c'est quoi le terme, comment on dit.
Bonne question.
De l'État, là. Le TA. Donc, en fait, bref, si tu t'hébergeais des Basques, c'était un délit de solidarité, puis tu devenais coupable par association. Puis après ça, ils ont étendu ça à tous les sans-papiers. Maintenant, ils demandent aux instituteurs de signaler carrément. Là.
Wow.
C'est, là, mais on vit dans une société libérale, démocratique, ouais. Capitaliste avancée.
C'est ça. Cette loi-là a été adoptée par les 35 républicains de la Chambre des représentants, tandis que les 21 démocrates ont voté contre. Il y a eu des manifestations pour et contre la réforme qu'on voyait manifester à l'extérieur du Capitole, la Phoenix. Puis, pour que ce soit adopté, il faut que la gouverneure républicaine de l'État, John Brewer, elle pose son veto. Donc, les partisans, comme les opposants, estiment que la gouverneure donnera son imprimature à une nouvelle législation. Donc, s'attendre à ce que ce soit approuvé. Il y a de 15 à 20 millions d'immigrants illégaux, des latinos, pour la plupart, qui se trouvent en sol américain. Ils font des travaux difficiles ou peu valorisants, comme laver la vaisselle ou recoter des légumes dans les champs. Des travaux précaires, dans le fond. Puis Obama, qui a promis de s'attaquer à la réforme de la loi fédérale sur l'immigration dans les prochains mois, quoique lui a déclaré que l'expulsion des immigrants illégaux n'était pas avenue envisageable. Donc, il va falloir regarder un œil là-dessus.
On va suivre tout ça.
On
n'est pas les seuls à garder un œil là-dessus. Hein.
Non, puis il y a eu une manifestation de néo-nazis samedi dernier contre l'immigration clandestine à Los Angeles. Devant la mairie de Los Angeles, qui s'est amené à mener à face-à-face tendue des centaines de contre-manifestants, deux camps étaient séparés par la police anti-émeute. C'est une cinquantaine de membres du mouvement national-socialiste, groupuscule néo-nazi, partisans à la suprématie blanche, qui ont brandi bandeaux et banderoles accrogrammées pendant une heure environ, en créant des cigales noyées par les slogans de racisme dehors et stop les nazis. Ils ont discuté par les contre-manifestants qui étaient pas mal plus nombreux. Il était environ 500. Derrière des banderoles, vous pouvez lire Nazi quitter Los Angeles, ou c'est ça. Puis, à la fin de l'infestation, il y a des pierres qui ont été lancées en direction des néo-nazis. Puis, eux étaient protégés par un cordon de policiers en tenue anti-émeute. Donc, ça fait aucun blessé. Puis, selon une des policières qui était interrogée, ben, elle ne savait pas s'il y avait eu des arrestations.
Oui.
C'est tout pour ça.
Ben ils protègent le droit de manifester. C'est souvent le cas. Là.
C'est dans la Constitution. S'il veut être nazi, il a le droit aux États-Unis. C'est le free speech.
À partir du moment où est-ce qu'il applique pour un permis, plutôt il y a plein d'États où est-ce qu'ils n'ont pas le choix de les laisser manifester. Ceci dit, on peut penser des fois en regardant là, ces nouvelles-là que ça se passe aux États-Unis ou ça se passe en Italie ou en France et tout. Mais moi, j'ai vu sur un réseau social récemment. Il y avait des cas aussi au Québec assez inquiétants. À Lotbinière, je crois. Le cas, c'est toi qui avais mis ça sur ton stade.
Un monsieur dont on n'arrive pas à... Ben, en tout cas, TVA dit juste que c'est un immigrant.
On sait pas de où.
C'est
le seul de Lotbinière.
Oui. Il a eu le malheur de s'installer dans ce village de... Comment on dit? Courrouge. il se fait vraiment saloper sa maison. Quasiment... quotidiennement, et la police à chaque fois se présente et dit « Ah ben, vous avez juste à nettoyer, monsieur. »
Ouais, mais c'est ça, mais là, il y a eu un incident là, la fin de semaine dernière, je crois, où est-ce qu'il y a un groupe d'adolescents qui, pendant une trentaine de minutes, ont lancé des balles de peinture et des œufs pourris sur les trucs. Et lui a appelé la police, sa voisine a appelé la police et tout. Puis les journalistes ensuite se sont rendus compte que les plaintes n'avaient pas été enregistrées. Ils ont filmé le truc. La voisine est capable de dire c'est qui les jeunes, mais la SQ fait rien. Puis là, le maire a dit on va enquêter, on va faire quelque chose à partir du moment où il y a des journalistes qui s'en occupent.
Ouais, mais ça a l'air que le maire, en fait, il en avait vraiment.
C'est genre son petit gars.
Ouais, ben, je sais pas, il en avait vraiment plein le dos. Il aurait appelé la police lui-même pour dire c'est une joke, là. Ça fait 24 heures, ça s'est passé. La police s'est toujours pas présentée au domicile.
Non, c'est quand même quelque chose. Ceci dit, Lotbinière, il y a même des groupes populaires. C'est pas si petit que ça.
Non, mais quand même.
Il y a la Corporation de défense des droits sociaux qui est présente là-bas. Faudrait voir d'ailleurs qu'est-ce qu'ils en pensent de ce genre de choses-là. Enfin, bon, tout ça pour dire que ça se passe pas juste.
C'est quoi, une demi-heure de Québec?
Peut-être plus une heure. Là.
Ouais, 45 minutes d'une heure, en tout cas.
En tout cas, c'est pas loin. Mais bon, c'est sûr que c'est cela. Donc, on a de la musique, nous?
Oui. On a un groupe avec un nom spécial.
Ah, spécial?
Spécial. Ça s'appelle N'Gobo. Et ça dit « Allume ta radio ».
now becoming clear. I hope you find it. Find what you're looking for. Find it wherever it may be. Beyond the shape of space and time, two bodies share one single mind. At least that's what I think you say. It's not my language anyway. Is there an end to some end to what you do? Some end to what you're going through? Turn on the radio.
Hey, rebonjour, toujours à voix de fée sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Et là, on va passer une entrevue avec Ronald Craig, qui est un auteur franco-anglais, anglo-français, en tout cas, quelque chose de même, qui a fait publier notamment chez Agon un bouquin en octobre 2009, Utopie américaine, expérimentation anarchiste du 19e siècle à aujourd'hui. Et en fait, grâce à la magie d'Internet, on est allé chercher une entrevue qui a été réalisée, mais en fait diffusée le 11 mars dernier sur les ondes de Canal Sud, qui est une radio associative, puis en France, les radios associatives, c'est un peu comme les radios communautaires, dans le fond, une radio associative à Toulouse, et puis c'est ça, c'était l'Anthony Libertaire Albert Camus, ça c'est un groupe de la coordination des groupes anarchistes qui avait invité Ronald Craig à venir à Toulouse pour présenter son livre, faire une conférence finalement, et donc il y avait Jean-Marc et Hervé qui sont allés à Canal Sud avec Ronald pour faire une entrevue d'une heure sur la question de l'anarchisme aux États-Unis, de l'utopie et tout ça. Bon, évidemment, on a dû couper un peu pour que ça fitte dans notre format, mais la totale est disponible sur le web. Nous, on avait trouvé ça sur Anar Sonore via le perce-oreille, mais si vous allez sur notre blog, votre fait avec un x et un s.blogspot.com et que vous cherchez là, le label radio, vous devriez tomber dessus assez rapidement. Donc voilà, c'est des extraits d'une entrevue sur les ondes de Canal Sud et vous écoutez toujours CKIA, inquiétez-vous pas.
Il est donc temps de présenter Ronald Craig. Vous m'arrêtez si je dis faux. Sociologue anglo-français, historien du mouvement anarchiste, vous enseignez aussi la civilisation américaine à l'université Paul-Valéry de Montpellier III. Vous êtes l'auteur, entre autres, de « Histoire de l'anarchisme aux États-Unis » paru en 81, « Laboratoire de l'utopie, les communautés libertaires aux États-Unis » en 83, précurseur de « Utopie américaine, la raison de votre venue à Toulouse », « Sacco et Vanzetti » paru en 84 et réédité 20 ans plus tard, « Terrorisme entre spectacle et sacré » sur les événements du 11 septembre 2001, mais aussi « L'imagination dérobée » paru en 2006. La liste n'est pas exhaustive. Outre votre participation à la presse libertaire et à la revue Réfraction, vous animez également sur le web, entre autres, une liste de discussions intitulée « Recherche sur l'anarchisme ».
Alors, Ronald, pour revenir à ton livre « Utopie américaine », est-ce qu'il y a un lien entre le mouvement utopiste, l'utopie, et l'histoire de l'anarchisme aux États-Unis ?
Oui, parce que bon, il faut dire une première chose, n'est-ce pas, c'est que les États-Unis sont nés un peu avec l'idée que on pouvait s'échapper des empires, des sociétés plus ou moins totalitaires, féodales et autres qu'il y avait en Europe, et qu'on allait se libérer en allant aux États-Unis. Donc ça a été un peu, les États-Unis ont été un peu le pays qu'on a vu comme l'avenir de l'humanité, des nouvelles promesses, et comme pour ceux qui étaient religieux, c'était la Jérusalem nouvelle. Donc c'était le pays où tout était possible et donc qui était ouvert à cette idée de l'utopie. Et en fait, je pense que encore aujourd'hui, il y a cet esprit de se dire que tout est possible. Je me rappelle une expérience qui m'avait beaucoup étonné. Une fois, je rencontrais un grand spécialiste de sociologie et je discutais avec lui et je lui donnais un certain nombre d'idées, n'est-ce pas, et je voulais avoir un peu son avis sur la question. Il me dit, c'est intéressant, maintenant il faut le mettre en pratique et voir si ça marche ou pas. Alors qu'en France, ce qui se passe plutôt, c'est qu'on discute l'idée, on dit non, ça ne peut pas marcher et on la rejette. On ne sait pas mettre nos idées en expérience et voir si en fait elles fonctionnent ou pas, et puis peut-être on peut les corriger si ça ne marche pas, et ainsi de suite. Nous sommes très cartésiens, et alors qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus pragmatiques, et l'anarchisme aux États-Unis est un anarchisme extrêmement pragmatique, qui est une grande ouverture d'esprit à énormément de choses. Et j'ai eu une expérience aussi très intéressante à ce point de vue-là, lorsque j'ai enseigné au Texas, j'ai eu un étudiant qui a voulu faire une enquête pour savoir un petit peu s'il y avait une mentalité anarchisante au Texas. Et il a fait un questionnaire avec un certain nombre de thèmes anarchistes et il a posé ces questions-là par téléphone à un certain nombre de gens. Et il a été très très surpris que 90 ou 95% des gens répondaient de manière anarchiste. Et à la fin, alors il disait, mais est-ce que vous êtes anarchiste ? Et les gens répondaient, quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et raccrochaient le téléphone de colère. N'est-ce pas ? Je crois qu'il y a effectivement un milieu beaucoup plus favorable aux idées libertaires aux États-Unis qu'il n'y en a en France, pour la raison qu'en France, on est encore extrêmement dominé par l'État centralisateur, qui a évidemment récupéré tout l'argent et tous les biens de tout le monde, et donc on a besoin de lui, on ne peut pas s'en passer. Dès qu'il y a le moindre problème, on fait appel à l'État. On l'attrape, on le gronde, on le critique, mais c'est toujours lui qui est la cible, alors qu'aux États-Unis, ce qu'on fait plutôt, on crée des mutuelles, on crée des associations d'entraide, etc. Par exemple, toujours au Texas, lorsque le sida est apparu, eh bien, les médecins n'osaient plus toucher les malades, ils avaient peur de la contagion. Eh bien, les homosexuels se sont organisés eux-mêmes. Ils se sont autogérés, ils ont créé leurs propres hôpitaux avec leurs propres médecins. Voilà un exemple typique de courant libertaire au sens large du terme, de gens qui s'autogèrent. Ça, c'est une des grandes choses qui manque en France, où l'on est souvent beaucoup trop uniquement dans les discours.
Donc, Ronald, est-ce que tu peux dresser un panorama de l'anarchisme aux USA, de ses origines à aujourd'hui ?
Oui, évidemment, bon, en simplifiant énormément de choses, on peut dire qu'au départ, déjà, la première forme d'implantation aux États-Unis dans un certain nombre de régions par les colons, s'est fait de manière relativement libertaire, c'est-à-dire que les gens se retrouvaient entre eux, et s'organiser pour avoir un certain terrain et avoir une ville. Alors évidemment, bon, dans beaucoup de cas, c'était des entreprises qui étaient très commerciales, d'hommes d'affaires, etc. Mais ce n'était pas le cas partout. Par exemple, il y a quand même toute la période de l'époque coloniale, des Quakers en Pennsylvanie, qui avait été fondée par un Quaker, qui pratiquait absolument la non-violence, qui ne voulait pas entendre parler de police. Lorsqu'il y avait des conflits avec les Indiens, ils allaient négocier avec eux. Ils essayaient de prendre les terres à des tarifs corrects et honnêtes. Et pendant très longtemps, ils refusaient de payer les impôts, etc. Et lorsqu'ensuite on a commencé, il y a évidemment bon, des émigrations qui venaient de différents pays, allemands, etc. Et que donc l'État a commencé à se mettre en place, l'État de Pennsylvanie, les Quakers ont décidé qu'ils ne se présenteraient pas aux élections. Et donc ils ont essayé de rester vraiment en dehors là-dessus. Et il y a encore des courants Quakers aujourd'hui qui, par exemple, fonctionnent énormément par décision, par consensus, sans aucune hiérarchie. Il faut rappeler que les Quakers, déjà, ils tutoyaient le roi, ce que le roi trouvait d'ailleurs assez drôle, n'est-ce pas, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient les égaux du roi. Ils avaient donc une mentalité très égalitaire. Il y avait d'autres groupes religieux qui étaient aussi un peu dans ce style-là. Donc ça, c'est un peu l'époque coloniale. Et donc, il a donné cette idée quand même qu'il fallait s'organiser ensemble avec un certain esprit mutuel de collaboration. Alors, nous avons ensuite la première période de l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire après la guerre d'indépendance. Il y a un courant révolutionnaire déiste qui se marque et qui dit « on ne s'est pas battu pour avoir à nouveau des chefs au-dessus de nous ». Il y a eu des révoltes, la fameuse Whiskey Rebellion, la rébellion du whisky, parce que pour justement marquer la présence de l'État, on a décidé de mettre un impôt sur le whisky, et les paysans se sont révoltés là-dessus, n'est-ce pas, en disant « il n'y a pas question ». Donc ça a permis de mettre petit à petit l'État en place, et ainsi de suite. Donc il y a eu des mouvements comme cela, de rébellion. Et ensuite, il y a eu donc une troisième période, qui a été la protestation contre l'esclavage. Le mouvement anti-esclavagiste a pris des positions très variées, évidemment, parce qu'il y avait différents courants. Il y avait les courants qui disaient « oui, mais il faut aller lentement, on peut pas faire ça du jour au lendemain, etc. » Et il y avait le courant qu'on appelle les abolitionnistes, qui disaient « il faut supprimer l'esclavage tout de suite et aujourd'hui ». Et donc, comme l'État soutenait l'esclavage, ils ont décidé qu'il fallait rompre aussi avec l'État. Et il y a eu des groupes extrêmement divers, par exemple ce qu'on appelait les come-outers, qui étaient des gens qui allaient dans les églises et puis qui interrompaient les prédications du prédicateur en disant « comment vous, les églises, vous acceptez l'esclavage, etc. » Il y a eu des courants donc très très forts qui disaient « je veux faire sécession » et nous avons évidemment une grande figure qui n'était pas très célèbre à l'époque mais qui aujourd'hui est quand même très reconnue, c'est Henri David Thoreau, n'est-ce pas, qui a écrit des choses extrêmement intéressantes en disant que quand un gouvernement commet des actes absolument intolérables, la seule place de l'honnête homme, c'est d'être en prison. Et il a refusé de payer les impôts à cause de ça. Il s'est opposé aussi d'ailleurs à la guerre contre le Mexique. Donc il y a eu un courant abolitionniste qui était d'inspiration anarchiste avant le terme, si l'on veut. Et il y a eu également un courant d'anarchisme individualiste, non pas dans le sens de l'individualisme bourgeois et capitaliste tel qu'on le voit aujourd'hui, mais un individualisme américain qui en fait était aussi extrêmement dans l'action de collaboration mutuelle et ainsi de suite, et qui a créé aussi quelques communautés dont on parlera peut-être un peu aujourd'hui ou demain, ce qui montrait bien que c'est un individualisme communautaire. Mais l'idée principale de cet individualisme était que une heure de votre vie vaut une heure de la mienne. Si vous me donnez une heure de travail pour moi, il faut que je vous dois une heure de votre travail. Donc c'était basé sur ce système-là, et bon, ça a fonctionné d'ailleurs de manière assez intéressante. Et puis nous avons ensuite l'industrialisation des États-Unis après la guerre civile, Et à ce moment-là apparaît ces gens qui avaient lutté contre l'esclavage apparaissent encore aujourd'hui, mais ils sont vieux, ils sont âgés. Il y a une nouvelle génération qui vient et qui dit nous sommes des abolitionnistes encore, mais nous voulons l'abolition de l'État. Pour un certain nombre de raisons, alors il y a différents courants aussi là-dessus. Ce mouvement va marquer profondément le mouvement ouvrier qui commence à naître à l'époque, des groupes divers, surtout dans la côte est des États-Unis. Et puis nous avons ensuite alors une autre période qui est alors la grande immigration qui va arriver d'Allemagne et des pays d'Europe centrale et de l'Est, et qui va évidemment constituer la classe ouvrière. Alors la classe ouvrière américaine dans les années 1870-1880, parce qu'on va par exemple dans des villes comme Chicago, il y a des métiers où par exemple tous les métiers du bois, l'ébénisterie, la menuiserie, etc. Si vous n'êtes pas allemand, vous ne pouvez pas trouver de travail parce que tout est tenu par les syndicats allemands. Et donc nous avons un mouvement qui va devenir anarchisant. Et les anarchistes vont occuper une place très importante dans le mouvement ouvrier. Par exemple, à Chicago, dans les années 80, il y a deux grandes manifestations ouvrières. L'une qui est organisée par les anarchistes et l'autre qui est organisée par les catholiques et les Irlandais, n'est-ce pas ? Parce que bon, pour lutter contre eux, l'Église catholique a essayé de mobiliser l'immigration irlandaise. Eh bien, les manifestations anarchistes, lorsqu'il y a les défilés dans les rues, c'est rien, en comparaison, les manifestations irlandaises, c'est rien à côté. Parce qu'il y a une foule énorme, les manifestants anarchistes, c'est tout le monde est là, les hommes, les femmes, les enfants, la famille, etc. Et puis ça finit avec des pique-niques, des danses et tout le reste. C'est très important, c'est très impressionnant. Et tout cela va aboutir à la grand événement de Haymarket en 1886, n'est-ce pas, une bombe qui éclate à l'occasion d'une réunion anarchiste en pleine rue. On accuse des anarchistes qui manifestement sont totalement innocents, ils seront condamnés à mort et c'est l'origine du 1er mai. C'est un événement qui va beaucoup marquer aussi le mouvement, qui va créer beaucoup de gens qui vont être tellement choqués par cela qu'ils vont se convertir en anarchisme. On peut parler de conversion parce que c'est vraiment toute leur vie qui est transformée. Et parmi ceux-là, il y a deux grandes figures particulièrement importantes. Emma Goldman, qui est une juive new-yorkaise qui a émigré de Russie. Et à Philadelphie, une autre femme qui s'appelle Voltairine de Clare, qui elle aussi va tout d'un coup découvrir l'anarchisme. Alors qu'elle avait commencé par dire quelle horreur ces gens-là qui utilisent les bombes, etc. Elle va découvrir et comprendre exactement. Elles vont consacrer l'une et l'autre toute leur vie. Elles vont parler à des milliers de personnes. Emma Goldman sera expulsée des États-Unis avec Alexander Berkman, qui était aussi à un moment donné son compagnon et puis qui restera toujours son ami, et ils seront expulsés avec des centaines d'autres. Et donc, mais ça, c'est une très grande période de l'anarchisme aux États-Unis qui va des années 1880 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Moi, j'ai vu des journaux, par exemple, des quotidiens de Californie, le San Francisco Chronicle, par exemple, en pleine guerre de 14-18, il met les titres de première page sont sur Alexander Berkman. C'est absolument étonnant. Il ne parle pas de la guerre mondiale, mais il parle d'Alexander Berkman qui est en train d'essayer de mobiliser des gens pour qu'ils n'aillent pas à la guerre, pour essayer de s'échapper, etc. N'est-ce pas ? Bon, il va se faire attraper d'ailleurs à cause de ça et il sera arrêté, expulsé. Donc, je veux dire, ce sont des mouvements qui sont quand même d'une importance réelle. Et lorsqu'il y a beaucoup de conflits, enfin les conflits aux États-Unis sont toujours très profonds, ils vont marquer une empreinte, de leur empreinte de manière très profonde. Alors ils vont aussi évidemment envoyer des journaux en Europe. Par exemple, il y a Johann Most, qui est un Allemand, qui est un ancien député allemand, qui est passé à l'anarchisme et qui est aux États-Unis et qui écrit un journal en allemand pour les camarades allemands, pour qu'il est envoyé clandestinement via la Hollande jusqu'en Allemagne. Il y a par exemple aussi les communautés juives qui essayent de soutenir les communautés juives en Russie et qui aussi ont créé une croix noire anarchiste pour le secours mutuel, etc., et pour aider les révolutionnaires là-bas. Et puis alors il y a évidemment le mouvement des anarcho-syndicalistes, les IWW, qui est aussi quelque chose d'assez extraordinaire dans la mesure où il va toucher un nombre très 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 important de groupes sociaux, n'est-ce pas? Parce que bon, il y a eu des anarchistes indiens, je parle d'indiens de l'Inde, enfin originaires de l'Inde, aux États-Unis. Il y a eu des anarchistes français, il y a eu des anarchistes italiens, il y a eu des anarchistes allemands, il y a eu des anarchistes de toutes les nations possibles et imaginables. Les Slaves aussi ont été très très importants. Les Tchèques, enfin c'était la Bohème à l'époque, ont joué aussi des rôles importants, et également dans le Nord, etc. Donc c'est un mouvement qui est en plein essor jusqu'à la guerre de 14-18. Et ensuite, il y a une grande crise qui va se passer lorsque il y a la révolution russe, parce que beaucoup, beaucoup d'anarchistes vont se rallier au communisme, n'est-ce pas? Ils vont voir en Russie le nouvel espoir de la classe ouvrière, donc ils vont quitter le mouvement anarchiste qui va être pratiquement dans les sous-bois jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement. Il y a quelques grandes figures, mais peu connues. Et c'est plutôt à partir des années 1950 et 1960, il y a d'abord la Beat Generation, bon, qui n'est pas anarchiste, mais qui est quand même, va poser quand même un certain nombre de choses. Et puis ensuite, nous avons le mouvement hippie, et c'est là qu'un certain nombre d'idées libertaires vont sortir, de genres très très variés, et qui va provoquer l'essor des idées libertaires aujourd'hui.
You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Mm-hmm. Yeah. Persecution, you must bear. Get your share. Got your mind set on a dream. You can get it. No harm in missing now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Succeed at last. Succeed at last.
Donc, nous venons de brosser un peu un portrait de l'histoire de l'anarchisme aux États-Unis, donc à la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60.
Oui,
jusqu'à la Beat Generation.
Voilà. Alors aujourd'hui, faisons un grand saut pour arriver un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut expliquer une chose qui me semble très importante, c'est que en France, on a beaucoup le culte de l'organisation, même si on ne sait pas s'organiser toujours très bien, et donc on est fidèle à une organisation. Aux États-Unis, c'est absolument pas le cas. Je sais que lorsque j'ai travaillé, par exemple, sur les anarchistes qui étaient dans la première internationale ouvrière, j'ai travaillé sur ceux qui se trouvaient à Madison, dans le Wisconsin, et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé quand la première internationale a disparu? Et ce que j'ai constaté, c'est que tous ces gens-là ont continué à être engagés, mais dans des choses très différentes, n'est-ce pas? Par exemple, il y avait une femme qui était très marquée par Fourier, et qui s'est lancée dans une architecture fourieriste, féminine à la fois aussi, féministe, et d'autres qui se sont lancés dans d'autres activités. Autrement dit, ce qui pour les Américains est important, c'est d'être dans le mouvement social. C'est pas d'être avec une étiquette particulière, même s'ils se donnent des étiquettes et des identités. Ce n'est pas tellement l'organisation comme telle, et moi je sais que très souvent lorsque je visitais des villes et je demandais est-ce qu'il y a un groupe anarchiste ici, là, quand je rencontrais un anarchiste ou autre, il dit ah oui, nous venons d'en commencer un il y a 3 ans. N'est-ce pas? On n'a pas du tout des organisations qui datent de 100 ans ou de 50 ans comme c'est le cas en Angleterre ou en France. Donc ça fait que bon, il n'y a pas de mémoire, c'est plutôt on recrée de nouveau les choses et on est beaucoup plus ouvert à l'actualité. Donc, les courants libertaires actuels, on les trouve un peu dans des choses extrêmement différentes et diverses. Par exemple, il y a des libraires libertaires qui essayent de penser le problème d'ouvrir les livres aux gens, par exemple de leur donner des informations quand il y a des manifestations sur leurs droits et des choses comme ça. Donc, des bibliothèques qui vont être ouvertes à des problèmes que habituellement les bibliothèques ne pensent pas toujours s'ouvrir, d'autres qui sont par exemple des documentalistes libertaires et qui vont travailler sur les sources des documents pour que les radios alternatives et les journaux alternatifs puissent donner des informations qui sont vérifiées et qui demandent évidemment donc une recherche, parce que nous vivons aujourd'hui à une époque où quand vous lisez le journal vous ne savez pas qui a signé l'article. Donc vous ne savez jamais exactement d'où vient cette information, qui l'a fabriquée et construite. Donc là, voilà un exemple. Bon, d'autres, beaucoup de libertaires aussi sont dans divers courants écologiques. D'autres sont dans les infokiosques, dans les radios alternatives. Il y a par exemple aussi une grande radio, télévision, surtout radio qui est sur Internet et qu'on peut prendre, qui s'appelle Democracy Now, qui est extrêmement intéressante, qui est quotidienne, n'est-ce pas, enfin, qui interviewe beaucoup de gens très importants. Il y a le fameux site de Chomsky qui reçoit des dizaines de milliers de visiteurs par jour. Il y a énormément de courants extrêmement divers. Par exemple, il y a des groupes qui ont essayé de vivre sur les idées de Josiah Warren, c'est-à-dire le temps de travail. Par exemple, vous êtes étudiant et puis vous avez besoin d'un avocat parce que vous avez été attaqué par quelque chose. Alors vous faites du babysitting chez un avocat et il doit vous donner le même temps que vous lui avez donné. Donc il fonctionne sur la base du temps de travail. D'autres qui ont essayé aussi avec des monnaies alternatives. Il y a également, par exemple, aussi des associations de mutuelles, des mutuelles, par exemple, qui s'efforcent de financer des banques, par exemple, qui sont basées sur des mutuelles et qui financent des expériences communautaires diverses à des taux extrêmement concurrentiels. Et ensuite, l'argent qui, quand il est remboursé, ça permet de créer et d'aider d'autres nouvelles expériences. Il y a vraiment des gens qui travaillent dans des milieux extrêmement divers. Je connais par exemple quelqu'un qui travaille aussi dans le journal de Greenwich Village et qui écrit de temps en temps aussi des articles sur le mouvement anarchiste ou sur des idées libertaires, etc. Il y a vraiment une variété très très grande, mais une diversité qui nous étonne un peu parce qu'il y a vraiment des choses les plus diverses. Par exemple, il y a aussi des gens qui sont des clowns qui viennent participent aux manifestations lorsqu'il y a lieu, des groupes musicaux également qui font la même chose. Il y a par exemple aussi des gens qui se spécialisent comme observateurs dans les manifestations, parce que lorsqu'il y a la police charge les gens et que les gens sont arrêtés, ils sont appelés comme témoins. Alors ils arrivent, ils portent une casquette verte n'est-ce pas, qui permet de les reconnaître, d'autres qui travaillent aussi dans le secourisme. Je veux dire, il y a vraiment des choses, des expériences extrêmement diverses. Alors, il y a évidemment ces milieux libres dont je parle, qui sont des expériences de communautés libertaires très variées.
On peut donner peut-être un exemple d'une expérience
Oui, alors je vais donner deux exemples tout à fait différents. L'un, c'est une communauté qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Twin Oaks, qui est en pleine campagne. Il doit y avoir, elle, c'est une communauté qui doit avoir à peu près 50 ans d'existence, qui doit grouper à peu près 150 personnes. Les gens qui étaient dedans ne sont pas toujours ceux qui étaient d'origine, mais enfin, il y a quand même aussi des gens d'origine là-dedans. Donc, il y a plusieurs générations qui sont là. Alors, c'est une communauté qui dispose de pas mal d'hectares de terrain, dans lequel une partie du terrain ils s'occupent à le boiser, une autre partie du terrain leur sert pour eux-mêmes, pour s'autosuffire autant que possible. Ils vivent en fabriquant des hamacs et du tofu, et une autre partie du terrain est consacrée à augmenter la diversité biologique. Donc ils essayent de réintroduire des espèces qui appartenaient à la région et qui ont disparu, de manière à enrichir. Alors évidemment, bon, ce sont des communautés qui sont des grands efforts écologiques aussi, avec évidemment des tas de points de vue alternatifs. Par exemple, bon, il y a pas d'auto individuelle, mais il y a des autos qui servent à la communauté. On essaye de, alors bon, au point de vue régime alimentaire, chacun est libre de pratiquer le régime, mais il y a quand même beaucoup de végétariens. Il y a aussi quelques végétaliens, c'est-à-dire les gens qui refusent de manger des œufs et tous les produits animaux, et ainsi de suite. Donc, voilà, ça c'est un exemple de communauté. Alors, un exemple totalement différent, c'est une communauté urbaine d'une douzaine de personnes qui est dans une ville. Ils ont acheté une vieille ferme abandonnée. Ils réparent des bicyclettes gratuitement. Demande aux gens ensuite d'essayer de donner un coup de main aussi pour réparer les bicyclettes. C'est une communauté punk. Elle a aussi, je crois, une quinzaine d'années d'existence, ou un peu plus, je ne sais plus. Et les gens doivent donner, je crois, 110 heures de travail par mois, je crois, à peu près, pour la communauté. Parce que, bon, il faut entretenir la maison, il faut donner donc le coup de main pour les bicyclettes, etc. Mais sinon, eux-mêmes vont en ville et participent à différentes choses, activités sociales. Il y en a qui ont participé à une radio alternative, à des journaux alternatifs. Actuellement, plusieurs d'entre eux travaillent à essayer d'améliorer les habitats de gens qui sont dans des conditions très modestes. D'autres travaillent dans les mouvements sociaux. Il y en a un, je crois qu'il n'y est plus à maintenant, mais qui a lancé le fameux serveur qui existe toujours sur Internet et qui s'appelle Rise Up. Peut-être ceux d'entre vous qui connaissent l'Internet connaissent, et où il y a pas mal aussi d'informations alternatives. Voilà donc deux exemples totalement différents de communautés.
Comment s'appelle-t-elle, celle-ci?
Celle-là, elle s'appelle Emma Goldman School, je veux dire ça, le nom exact, Emma Goldman Finishing School, c'est-à-dire école terminale. Ben, il n'y a pas d'enfants dans la communauté, d'ailleurs, c'est assez amusant. C'est pas, ce sont tous des adultes. Voilà, bon, ça c'est deux exemples de communautés, mais je peux citer aussi encore un autre exemple totalement différent. C'est une communauté de lesbiennes, uniquement donc de femmes, qui se sont établies aussi en milieu rural, et qui essayent de vivre de manière totalement... elles ont été fondées en 1975, ce qui fait quand même, donc aussi, elles ont à peu près 35 ans d'existence. Donc ce ne sont pas des communautés éphémères qui ne durent que 3 jours, n'est-ce pas? Et une chose aussi que je veux ajouter, parce que je suis sûr qu'il y aurait des questions là-dessus, ce ne sont pas des communautés repliées sur elles-mêmes. Parce que moi, pour moi, la communauté qui est nombriliste n'est pas une communauté utopique. Alors ce sont des communautés égalitaires et anarchistes, dans le sens qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de décideur, il n'y a pas de chef. Alors il y a des processus de décision très complexes.
Est-ce qu'on peut dire un mot sur l'héritage du pédagogue et du fondateur de l'école moderne, Francisco Ferrer?
Oui, alors oui, je crois que c'est une place importante qu'il a eue, parce que bon, c'est une communauté j'ai rencontré d'ailleurs des gens qui ont appartenu à cette communauté, à cette école Ferrer aux États-Unis. Lorsque Ferrer a été exécuté par l'État espagnol, les anarchistes américains ont décidé qu'il n'était pas question de simplement faire des commémorations avec des grands discours, mais qu'il fallait mettre en pratique ses idées. Donc ils ont essayé de créer une école Ferrer. Alors, l'école Ferrer a tenu à toucher sur... Alors ça, c'est dans, nous sommes au début du 20e siècle. Elle était d'abord à New York, et elle touchait surtout des enfants d'immigrants juifs qui étaient là. Et c'est une école qui a été extrêmement moderne sur énormément d'aspects. Et ensuite, elle a été obligée d'aller à Stellton dans le New Jersey, et avec elle, alors il y a eu donc des familles qui sont venues s'installer aussi. Il y a eu quelques problèmes parce qu'il y a eu énormément d'enseignants qui ne sont pas restés très longtemps dans l'école, mais qui ont employé quand même des méthodes très très ouvertes au point de vue pédagogique. Par exemple, les enfants n'étaient pas obligés d'aller à l'école. Ils étaient pris en charge par la communauté. Et quand on regarde les résultats, on est assez étonné de voir que ces enfants-là ont parfaitement bien réussi plus tard. Bon, il y a eu de tout. Il y a eu évidemment des gens qui sont devenus hommes d'affaires et d'autres qui, au contraire, ont été des militants. D'autres étaient hommes d'affaires et militants aussi, donnant de l'argent pour soutenir le mouvement et des choses de ce genre-là. Ce mouvement a été d'ailleurs extrêmement généreux au point de vue financier, a donné beaucoup, beaucoup d'argent lorsqu'il y a eu l'affaire Sacco et Vanzetti, par exemple, et a essayé aussi de soutenir beaucoup les mouvements européens pendant très longtemps. D'ailleurs, cela continue encore aujourd'hui. Par exemple, bon, le mouvement anarchiste italien est encore financé par des gens qui ont participé au mouvement Ferrer de l'époque, de ces époques-là, ou à la guerre d'Espagne, et qui sont aux États-Unis ou ailleurs, et qui ont donné, qui ont fait des legs et des choses comme ça. Donc, c'est un mouvement qui a été assez extraordinaire. Par exemple, bon, ils ont eu quelques grands peintres qui sont venus, qui faisaient des écoles qui enseignaient donc les beaux-arts. Et alors, évidemment, bon, ils ont fait des choses qui, par exemple, à l'époque, apparaissaient comme totalement incroyables, parce que bon, on ne voyait pas de femmes nues aux beaux-arts, n'est-ce pas? Alors que là, il y avait des femmes nues. Et donc, il y a eu donc ces écoles de peinture, dans lesquelles il y a eu même Trotsky qui est venu suivre des cours quand il est passé par là. Et ils ont ouvert également, bon, ils se sont ouverts au théâtre, au problème du corps, du naturisme et un certain nombre d'autres thèmes. Et alors, c'est là que je voudrais dire quand même une chose aussi, c'est que, bon, les aides-nazistes apparaissent aussi comme des gens un peu idéalistes et complètement à côté de la plaque. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les anarchistes du 19e siècle qui disaient aux États-Unis, par exemple, et en France aussi, que la femme est l'égale de l'homme, à cette époque-là, on disait, c'est contre nature, c'est contre Dieu, c'est contre la Bible, c'est pas possible, ça ne peut pas se faire, ça ne se fera jamais, c'est physiologique, ça ne peut pas changer. Et ben, ces idées que les anarchistes ont développées à l'époque, eh bien, aujourd'hui, quand même, elles sont acceptées. Les anarchistes du 19e siècle aux États-Unis se sont fait arrêter très souvent parce qu'ils diffusaient les méthodes de contrôle des naissances, par exemple de contraception. Eh bien, aujourd'hui, ce sont des idées qui sont acceptées. Ils ont posé des problèmes comme la libération du corps, le naturisme, et ils se sont fait aussi houspiller à cause de cela. Eh bien, aujourd'hui aussi, il y a des camps naturistes qui existent, qui sont même devenus très conservateurs par ailleurs. Donc, je veux dire par là que beaucoup des idées libertaires, et je pense aussi à un autre exemple, c'est justement l'idée de fonctionner sans chef. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, dans le mouvement altermondialiste en général, il y a une très grande méfiance d'être manipulé, et la plupart de ces mouvements-là essayent de prendre des décisions autant qu'ils le peuvent, sans être manipulés par les groupements politiques et en essayant de prendre des décisions, si possible, autant que possible, par consensus. Donc je crois que sur beaucoup d'aspects, beaucoup d'idées libertaires, qui étaient considérées comme irréalisables et utopiques, ont très, très bien fonctionné. Alors l'idée anarchiste qui ne fonctionne toujours pas encore, c'est cette idée qu'il ne faut pas d'État, mais on peut le dire aussi d'une manière positive, c'est-à-dire qu'on veut créer le plus d'associations possibles qui soient basées sur le volontariat des gens, à tous les niveaux, local, plus global, pourquoi pas international. Et je pense que c'est cette idée-là qui me semble très importante, qu'il faut diffuser aujourd'hui.
Oui, donc ben, c'était Ronald Craig. C'est une entrevue qui avait été diffusée sur les ondes de Canal Sud, une radio communautaire de Toulouse. Alors c'était l'Athénée libertaire Albert Camus de la coordination des groupes anarchistes, Jean-Marc Hervé qui avait invité Ronald Craig à prononcer une conférence à Toulouse. On en a profité pour aller pour aller à la radio communautaire et nous on en a profité de la magie du web pour vous rediffuser ça en cette semaine où est-ce qu'il se passe pas grand chose dans la région de Québec. Bon, on s'est dit que ce serait bien. Voilà, c'était Voix de Fait. C'est pas mal ce qui va mettre fin à cette édition de l'émission. Alors, Voix de Fait, c'est l'émission du collectif Anarchiste la Nuit. Si vous considérez que vous en avez pas assez, vous pouvez visiter notre blog, Voix de Fait avec un X et un S point blogspot.com. On met souvent des trucs dessus. Bon, en ce moment, c'est pas vraiment une mise à jour quotidienne. Ça pourrait, mais c'est pas le cas. Voilà. Alors, passez une bonne semaine sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. C'est Nicolas en compagnie de...
Johnny.
Et Farouk, qui dit « On finit avec Daddy Maury cette semaine ».
Je veux t'entendre crier, je suis vénère. Je dis que l'amour lui se vénère. Il le tape sur les nerfs. Si t'es d'accord, lève ta main haut dans les airs. Si tu n'aimes pas l'école forte, si tu sais qu'ils sont forts, forts. Je veux t'entendre crier, je suis vénère. La police me vénère. Et un jour, ça va péter dans leur gueule. Un policier, c'est aimé quand il se retrouve sans son gueule. Si mon fils agresse un policier, ce sera pas pour le faire. Ah ouais. Sondi fana, sondi son, sondi son. Écoute cette histoire, je rentrais chez moi. J'avais un spliff à la bouche et un cœur mathéma. Il s'est rapproché vers moi, m'a demandé mes débats. Je savais pas, j'y ai répondu, je sais pas. Il m'a dit c'est quoi ça, vous fumez de la ganja. Le CC interdit, je dois vous arrêter pour ça. En plus vous êtes noir, et moi je n'aime pas ça. Ce soir vous allez au poste et vous dormez là-bas. Je lui ai répondu, ouais ferme là. Je suis pas ce que tu crois. La seconde qui suivit le cœur s'est retrouvé terre. Pas le temps qui réalise ça, j'avais déjà ses draps. Juste un Rastaman, il faut pas me prendre pour un âne. J'ai mes métiers, mais j'ai quitté la police. J'ai mes métiers, mais j'ai quitté la justice. J'aime pas les juges et les procureurs, ce sont tous des fils corrompus. Ils font rien pour les jeunes de la rue, yo. Donne-moi mon micro que je les tue. Et la police me vénère, il me tape sur les nerfs.